Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau traité. Nous allons commencer le traité sur le baptême, après avoir expliqué, en suivant saint Thomas d'Aquin, les généralités sur les sacrements. Donc c'est un traité relativement facile, qui couvre sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans la tertia pars, les questions 66 à 71. Sur le polycopié, vous avez des choses intéressantes, des textes de saint Thomas directement, qui résument un peu la position de saint Thomas, avec les textes même de saint Thomas d'Aquin, à partir de la page 160 et suivante. Donc commençons par la question 66, la nature du sacrement de baptême. Donc c'est une question importante, longue, il y a 10 articles. Nous allons voir l'article 1 pour commencer, la question 66 de la tertia pars, troisième partie de la somme. Qu'est-ce que le baptême ? Savoir si le baptême est une ablution. C'est un article important. Donc je vais essayer de vous l'expliquer, au moins en vous lisant complètement le corps de l'article. Donc saint Thomas se pose la question sur savoir sur la nature même du baptême, donc est-ce que c'est une ablution. Et donc il va considérer qu'il y a trois choses à considérer, le signe, ce qui est à la fois réalité et signe, et ce qui est seulement réalité. Je rappelle que le sacrement est par définition toujours un signe, le signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. Donc il y a trois choses à considérer. D'abord le signe, ce qu'on appelle en général, on utilise dans les livres de théologie le terme latin sacramentum tantum, sacrement lui-même, ce qui est à la fois réalité et signe. Le res sacramentum, ce qui correspond au caractère, et ce qui est seulement réalité, res tantum la grâce. Donc il y a trois choses, si vous voulez, à considérer pour simplifier dans le sacrement de baptême, le signe, le caractère et la grâce. Donc on retrouve là la définition du sacrement du Concile de Trente. Signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Avec le baptême, il y a quelque chose de plus qui se rajoute, pas simplement pour le baptême, mais également pour les sacrements de confirmation et d'ordre. Pour ces trois sacrements, l'ordre, la confirmation et le baptême, se rajoute à ce signe quelque chose de supplémentaire, à savoir le caractère, c'est-à-dire une marque indélébile qui va donner un pouvoir spécial à l'âme. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être détruit. Pour cela que même si quelqu'un qui a reçu un sacrement avec caractère vit dans le péché mortel, son caractère ne peut jamais être détruit. Quand on est baptisé pour toute l'éternité. Vous êtes prêtre ou confirmé, vous êtes prêtre et confirmé pour toute l'éternité. Donc, le sacrement lui-même, c'est le signe, dit saint Thomas, quelque chose de visible et d'extérieur, donc signe d'un effet intérieur. Donc celui qui se lave après avoir touché un mort, de nouveau le touche, que lui sert son ablution. Il semble donc que le baptême soit l'ablution elle-même, dit saint Thomas. Et ce qui constitue le sacrement, c'est donc ce signe visible. Alors ici, ce qui se présente au sens, c'est l'eau elle-même et l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire l'ablution. Donc, le sacrement de baptême est une ablution extérieure du corps accomplie avec les paroles prescrites, qui est le signe extérieur d'une ablution intérieure. Le baptême étant un signe comme tous les sacrements, c'est une ablution extérieure, donc un signe extérieur. L'ablution extérieure, ça veut dire une ablution, ça veut dire qu'on verse de l'eau sur le crâne de l'enfant. Et bien, ce signe extérieur, cette ablution extérieure, symbolise une ablution intérieure. C'est-à-dire, de même que l'on voit avec nos yeux corporels un prêtre verser de l'eau sur le crâne d'un bébé, de la même façon, nous savons avec les yeux de notre âme, qu'à l'intérieur de cet enfant, dans l'âme de cet enfant, l'ablution extérieure va provoquer, à cause de l'union entre le signe extérieur, l'ablution extérieure et la forme, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cela va provoquer dans l'âme un changement substantiel, fondamental, à savoir l'arrivée de la vertu de charité, par l'ablution spirituelle, une ablution intérieure, donc qui va éliminer par conséquence le péché originel. C'est une chose importante à comprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande quel est le premier but du baptême, vous répondront en général, c'est de faire de nous des enfants de Dieu et d'éliminer le péché originel, ce qui est vrai. Mais en soi, la première chose qui est donnée par le baptême, ce n'est pas d'effacer le péché originel, car ceci est une conséquence d'une autre action encore plus importante, à savoir l'arrivée dans l'âme de la charité. Au moment où on baptise un enfant, il y a une espèce de, comparez ça si vous voulez, à l'arrivée d'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, donc un coup de tonnerre incroyable qui réveille toute la ville, et le Saint-Esprit va s'infuser dans l'âme de chacun des apôtres et des disciples, la Très Sainte Vierge Marie, qui sont là, sous la forme d'une langue de feu extérieure. Et cette langue de feu extérieure, qui est un signe extérieur, manifeste une purification complète intérieure provoquée par le Saint-Esprit. Donc, et cette confirmation va marquer les apôtres d'un signe indélébile qu'on appelle un caractère. Bien, c'est la même chose pour le baptême. Donc, ce qui est sacrement est donc quelque chose de visible et d'extérieur, un signe d'un effet intérieur. Donc l'ablution extérieure manifeste quelque chose d'interne, l'ablution intérieure qui provoque l'effusion de la charité et quelque chose qui ne se voit pas. Donc ça, c'est pour le signe. Quant à ce qui est à la fois réalité et sacrement, c'est le caractère baptismal. Réalité signifiée par l'ablution extérieure, par la signe sacramentelle, de la justification intérieure. Celle-ci, dans ce sacrement, est seulement réalité signifiée et non point signe. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas séparer les deux choses. Le caractère, le baptême n'est pas simplement un signe extérieur, c'est aussi quelque chose qui va donner un caractère et conférer la grâce. Ce qui n'est pas le cas pour tous les sacrements. Tous les sacrements sont des signes, tous les sacrements confèrent une grâce, mais tous les sacrements ne confèrent pas le caractère. Seul le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation et le sacrement de l'ordre donnent la grâce. Donc ce qui est à la fois réalité et sacrement, c'est le caractère sacramental, le caractère baptismal. Alors, saint Thomas va compléter ses explications, qui sont assez philosophiques pour cet article-là. Il va compléter en disant que si le caractère demeure et ne peut être effacé, la justification intérieure demeure, mais elle peut se perdre. Donc, saint Thomas une distinction entre le caractère qui lui est ineffaçable, ne peut pas se perdre, c'est-à-dire que même si un baptisé vit dans le péché mortel jusqu'au cou, il garde son caractère, et alors que la grâce qui correspond à ce caractère, la grâce baptismale, elle peut se perdre. Donc, Donc il distingue trois choses, le caractère qui demeure, la justification intérieure qui demeure aussi, mais qui peut se perdre par le péché. Donc la justification peut se perdre par le péché mortel, mais pas le caractère. C'est pour ça qu'un caractère, baptismal est inamovible. Donc il y a une dignité d'une âme baptisée qui demeure de façon permanente. Cette dignité correspond au caractère. Alors, quant à l'institution de ce sacrement, il est de foi catholique que ce sacrement a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avant la Passion. Donc, le baptême a reçu ce pouvoir lors du baptême du Christ. C'est la tradition de l'Église que reprend saint Thomas d'Aquin, qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé lui-même, alors qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'il n'y a pas le péché originel, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste, c'est à ce moment-là que le baptême qui était simplement un signe du baptême, ce baptême donné par Saint Jean-Baptiste n'était pas un sacrement encore, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore passé, si vous voulez. Et donc, par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur va sanctifier le baptême de Jean, de Saint Jean-Baptiste, pour le transformer en sacrement de baptême. C'est donc alors, vraiment, au moment du baptême du Christ, que le baptême a été institué quant au sacrement lui-même. Bon. Mais l'obligation de recevoir ce sacrement ne fut imposée aux hommes qu'après la Passion et la Résurrection. Donc, avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes n'étaient pas tenus au baptême, puisque le sacrement de baptême n'avait pas encore été institué. Donc, parce que la passion du Christ, dit saint Thomas, met fin au sacrement figuratif, au symbole, que remplace le baptême et les autres sacrements de la loi nouvelle. Parce que le baptême configure l'homme à la passion et à la résurrection du Christ en le faisant mourir au péché et renaître à une vie nouvelle dans la justice. Aussi, fallait-il que le Christ souffre et ressuscite avant que soit imposée aux hommes la nécessité de se configurer à sa mort et à sa résurrection. Donc il nous faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son baptême, dans sa mort et dans sa résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ étant le symbole de notre propre résurrection. Le baptême est tellement important et on peut le prouver en voyant l'acharnement de l'église de Vatican II pour détruire le baptême. Je vous ai déjà expliqué que Bergoglio a eu le culot de prétendre que les gens qui ne sont pas baptisés, en donnant l'exemple des musulmans, que les gens qui ne sont pas baptisés sont des enfants de Dieu comme les autres, et donc la conséquence c'est que le baptême est absolument pas nécessaire. Donc, saint Thomas va un petit peu approfondir ce sujet en se posant la question, une question sur la matière propre du baptême. Bon. Est-ce que l'eau est la matière propre du baptême? Donc, il est évident que la réponse est positive. L'eau est la matière propre du baptême, parce que la nature du baptême, c'est de nous engendrer à la vie spirituelle. Donc, les propriétés de l'eau conviennent aux effets du baptême. N'oubliez pas que le baptême, comme tous les sacrements, est un signe et que l'eau va représenter un certain nombre de signes par elle-même. Bon. Par l'humidité, elle lave et par là, elle est apte à signifier, à causer l'ablution des péchés. Mais l'eau aussi rafraîchit, elle tempère l'excès de chaleur et par là, elle peut apaiser le feu de la convoitise, le feu de la concupiscence. Elle est aussi transparente et peut recevoir la lumière et par là, elle convient au baptême qui est le sacrement de la foi. Donc tous ces signes extérieurs qui tournent autour de l'eau qui est un être, une créature qui est très connue, tout le monde l'utilise, donc qui a plusieurs fonctions, pas simplement de rafraîchir. L'homme ne peut pas vivre sans eau, mais aussi l'eau est une matière avec laquelle on peut se laver, on peut se nettoyer. Donc c'est un symbole de purification. Et saint Thomas va jusqu'à dire que c'est aussi un symbole de la lumière qui passe à travers l'eau, parce qu'elle est transparente, et qui donc représente le sacrement de la foi. Ensuite, il va approfondir encore un peu plus en disant que l'eau peut convenablement représenter les mystères du Christ par lesquels nous sommes justifiés. Quand nous plongeons la tête dans l'eau, c'est comme un tombeau dans lequel le vieil homme est enseveli, il y est plongé Il disparaît. Ensuite, c'est un homme nouveau qui renaît. Bon. Si vous ne renaissez pas de l'eau et de l'esprit, vous ne pourrez pas posséder le royaume des cieux. Donc, l'ablution représente aussi l'association, si vous voulez, du baptisé au mystère du Christ, dans le sens que elle représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le tombeau par sa mort le vendredi saint, va en sortir victorieusement le dimanche de Pâques pour bien montrer qu'il est maître de la mort. De la même façon, lorsque nous baptisons, un enfant est baptisé, c'est l'ensevelissement du vieil homme qui va ressusciter comme homme nouveau. Quatrième remarque de saint Thomas, c'est que l'eau est une matière commune et abondante et qui convient partout à un sacrement aussi nécessaire, puisqu'on peut trouver facilement de l'eau partout. Du côté du Christ, dernière remarque de saint Thomas dans cet article, du côté du Christ, l'eau coula pour nous laver, le sang pour nous racheter. Aussi le sang se rapporte-t-il à la sainte Eucharistie et l'eau au baptême. C'est pour ça qu'il est coulé hors de la plaie du Sacré-Cœur au moment où notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, a eu son cœur percé par la lance du soldat saint Longin, sont sortis à ce moment-là de son cœur l'eau et le sang. J'ai expliqué que l'eau, c'est l'eau péricardite du sac qui entoure le cœur, et le sang, parce que tout simplement, le sang était dans un cadavre, se conserve dans l'oreillette droite en partie. Et donc, en perçant l'oreillette droite, eh bien, le sang a jailli, parce que le sang était sous pression. Donc, continuons avec saint Thomas d'Aquin, cette question qui est une introduction, en quelque sorte, au sacrement du baptême. Savoir, est-ce qu'il faut de l'eau pure? Est-ce que l'eau est une matière indispensable? Est-ce qu'on peut remplacer l'eau par d'autres choses? Bon. L'eau, quelle qu'elle soit, quelque changement qu'elle ait subi, qui n'a pas perdu sa nature d'eau, peut servir pour le baptême. Mais si elle l'a perdue, on ne peut s'en servir. Bon. Je vous ai déjà cité, je pense, cette petite blague qu'on disait au séminaire, mais qui est une blague théologique, en fait, qui est tout à fait exacte. C'est l'histoire d'un évêque qui vient vérifier un peu les connaissances doctrinales et théologiques de ses séminaristes. Donc il fait une interrogation orale à un diacre, il a d'abord invité à la maison épiscopale, donc les diacres qui devaient être ordonnés prêtres, et puis il les interroge pour voir un petit peu ce qu'ils savent. Et il pose comme question à un des diacres qui était présent à sa table, donc, est-ce qu'on peut baptiser un bébé avec de la soupe? Est-ce que c'est valide? Et le diacre a répondu avec esprit, il faut distinguer, monseigneur, si c'est la soupe de la maison épiscopale, la soupe de l'évêque, c'est certainement invalide. Par contre, si c'est la soupe du séminaire, le baptême est valide. Bon, mais le diacre, il avait vraiment compris la question. Tout simplement parce que la soupe du séminaire étant un brouet assez clair, il y avait peu de légumes là-dedans, c'est surtout de l'eau et quelques légumes qui traînaient au milieu. Donc c'était surtout de l'eau, donc c'était valide, on peut validement baptiser en cas d'urgence avec de la soupe, ça aurait été valide, alors que la soupe de l'évêque est au contraire une soupe très forte en légumes, donc très très nourrissante, et donc il y avait plus de légumes que d'eau, donc c'était pas de l'eau, et donc le baptême aurait été invalide. Donc si, tant que l'eau est considérée comme eau, il y a un baptême valide. Donc, c'est comme utile à savoir dans les cas d'urgence. Imaginez que vous assistiez, ça peut arriver, hein, que vous assistiez à un accident devant vous, que la personne qui est en train de mourir dans la voiture, les pompiers ne sont pas encore arrivés, vous êtes à côté de la voiture qui vient de s'entortiller, s'enrouler autour du platane, et vous essayez de faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire grand chose, et une personne est en train de mourir là, et vous demande le baptême. Qu'est-ce que vous faites? Demande le baptême? Ben, vous avez pas d'eau? Pas d'eau dans la voiture, et puis vous voyez qu'à côté du mourant, ben, il y a un thermos avec du café dans le thermos. Est-ce que vous pouvez baptiser du café? Est-ce que du café, c'est d'abord de l'eau? Ben oui, le café, c'est essentiellement de l'eau. Et donc, dans un cas comme ça, le baptême serait valide. Donc, il faut connaître ces choses-là. Dans les temps où les gens avaient encore un peu de bon sens, dans les écoles d'infirmières, on apprenait aux infirmières à baptiser. Maintenant, évidemment, c'est fini, c'est terminé. Puis, saint Thomas, après avoir considéré la matière, va considérer la forme. La forme, c'est je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que cette forme, moi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que cette forme convient au sacrement? Alors, saint Thomas explique que cette forme correspond tout à fait à la tradition sacramentelle concernant le baptême, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans saint Matthieu, chapitre 28. Bon. Donc, il va détailler un petit peu les choses en disant que la forme, c'est-à-dire les paroles, exprime la cause du baptême. Or, cette cause est double. D'abord, c'est la cause principale d'où il tient sa vertu, c'est la Sainte Trinité. Et l'autre instrumental, c'est le ministre qui confère le rite sacramentel. Bon, donc, il y a deux choses. Un ministre qui va utiliser l'eau associée à une forme très particulière. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la forme du baptême doit donc faire mention de l'une et de l'autre chose, c'est-à-dire à la fois du ministre et à la fois de la Sainte Trinité au nom de laquelle on baptise l'enfant. Donc la forme du baptême doit donc faire mention de l'une et de l'autre. On désigne le ministre quand on dit je te baptise, pronom personnel je, et la cause principale quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, cette formule convient parfaitement au baptême. Donc, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En même temps qu'on prononce ces paroles, le diacre ou le prêtre ou le laïc, même dans certains cas d'urgence, verse l'eau directement sur le front du bébé, de la personne qui a baptisé, en prononçant en même temps les paroles, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attention, il faut bien comprendre que le ministre est un instrument. Donc, si un laïc, par exemple, un peu paniqué parce qu'il doit baptiser pour la première fois un adulte qui est en train de mourir dans un accident de voiture, verse de l'eau sur le front de la personne qui est en train de mourir en disant que le Christ te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est invalide. Il faut qu'il y ait le je pour bien marquer justement que il faut un ministre. Oui, comme il est important, surtout dans le domaine sacramentel, de se méfier énormément des nouveautés, dans aucun cas de changer ces paroles sacramentelles qui ont 2000 ans d'âge. Donc les paroles employées dans la formule sacramentelle du baptême sont prononcées non seulement pour signifier, mais aussi pour produire ce qu'elles signifient, à savoir la grâce sanctifiante. Alors, il faut donc baptiser. Sous cette forme, je vous baptise au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on baptise au nom du Christ, eh bien, le sacrement serait invalide parce qu'on en introduit une mutation qu'on appelle une mutation substantielle dans le baptême. Bon, ce n'est pas le but du cours. Là, j'ai fait un commentaire sur saint Thomas d'Aquin, donc n'oubliez pas que dans tout ce domaine, surtout dans le domaine sacramentel, je considère comme acquises les grandes notions du catéchisme sur le même sujet. Bon, pour ceux qui connaissent mal leur catéchisme sur le baptême, je conseille beaucoup de revenir sur le site dont je m'occupe d'Anne Marie, sur les cours de catéchisme concernant le baptême, pour bien vous mettre les idées en place. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez écouter et travailler le cours en suivant les textes, le texte même de saint Thomas d'Aquin. Donc, pour résumer, si on introduit, soit dans la matière, soit dans la forme, soit dans l'intention, les trois conditions nécessaires pour qu'un sacrement soit valide, si on introduit une mutation, c'est-à-dire un changement, donc il peut y avoir un changement malheureusement, et sur la forme, et sur le baptême, et sur l'intention, et sur le ministre. Bon. Et sur l'intention, un ministre avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Si cette mutation est une mutation substantielle, c'est-à-dire qui change la substance même du sacrement, c'est évident que le sacrement devient invalide. Donc, si au contraire c'est une mutation seulement accidentelle, il est évident que dans ce cas-là, le baptême reste valide. Donc, c'est ce que explique, va expliquer saint Thomas d'Aquin. Si on omet une des conditions posées par le Christ pour le sacrement, celui-ci perd toute son efficacité. Or, le Christ a institué que le baptême serait donné sous l'invocation de la Sainte Trinité. Par conséquent, tout ce qui manque à la totalité de cette invocation ruine l'intégrité du baptême et l'invalide. Donc, il faut que le baptême soit conféré au nom de la Sainte Trinité. Au nom de la Sainte Trinité. C'est pareil pour le sacrement de pénitence. Lorsque le prêtre confère l'absolution, il dit « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il ne dit pas que le Christ t'absolve de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si un prêtre disait que le Christ t'absolve, l'absolution serait invalide. Puisque le prêtre agit in persona Christi au nom et en la personne du Christ. Donc il faut que l'invocation à la Sainte Trinité soit complète. Imaginez un prêtre qui a un peu oublié sa doctrine, qui aime beaucoup la Sainte Vierge, qui baptise un bébé en disant « Je te baptise au nom de la Sainte Vierge Marie ». Ce sacrement serait invalide. Bon. Ou qu'il dise « Que la très Sainte Vierge Marie te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le sacrement est invalide. Il faut dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, on continue dans les explications de saint Thomas d'Aquin. On arrive à l'article 7 de la question 66. L'immersion est-elle nécessaire au baptême? Bon. Alors, bien sûr, ça veut dire une immersion. L'immersion, c'était la coutume au début de l'histoire de l'Église, où l'adulte était baptisé, on ne baptisait pas les enfants à l'époque, pas encore. Et donc, on le baptisait comme adulte, et l'adulte était plongé complètement dans l'eau, dans une piscine, c'est pour ça qu'on appelle ça une piscine baptismale, était plongé complètement dans l'eau pendant qu'on prononçait les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Bon, on appelle une ablution. Mais le baptême peut également se faire se fait pas simplement par, je reprends le texte de saint Thomas, l'ablution dans l'eau peut se faire non seulement par immersion, mais aussi par aspersion ou par effusion. Aussi, bien qu'il soit plus sûr de baptiser par immersion, parce que tel est l'usage commun, on peut aussi baptiser par aspersion ou par effusion. Bon, alors quelle est la différence? Une immersion, j'allais vous le dire, c'est comme quand la personne qui va être baptisée est plongée complètement tout son corps dans l'eau. Ça s'appelle une immersion. L'aspersion, c'est pratiqué au début de l'histoire de l'Église, lorsqu'il y avait des milliers de baptêmes ensemble. Par exemple, en soi, ce serait possible, bien que fortement déconseillé, à cause du doute qu'il peut y avoir pour des raisons physiques. Imaginez un prêtre qui soit dans un cas d'urgence, qui veuille baptiser 1000 personnes qui sont devant lui, parce que le bateau est en train de couler, tout le monde va mourir. Et donc, il y a 1000 personnes qui demandent le baptême d'un seul coup. Donc, le prêtre pourrait, à la rigueur, prendre un goupillon, de l'eau, et avec le goupillon, asperger toutes les gens qui sont là, en disant en même temps, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, c'est quand même dangereux et douteux, parce que il faut être sûr qu'une goutte est bien tombée sur le corps de chaque personne pour qu'il y ait un baptême valide. Bon, c'est ce qu'on appelle l'aspersion. Et l'effusion, c'est la façon de baptiser habituelle dans l'Église catholique actuellement, c'est-à-dire quand on verse l'eau directement sous le front de l'enfant en prononçant les paroles de la forme en même temps. Donc saint Thomas rappelle les trois manières de baptiser. Bon, actuellement l'ablution n'est plus pratiquée. L'immersion n'est plus pratiquée pour des raisons pratiques. Mais on baptise par effusion de l'eau sur le front. Cela peut se faire en cas de nécessité. Donc l'aspersion ne pourrait être utilisée qu'en cas de nécessité. Saint Thomas cite justement le texte des Actes des Apôtres, soit à cause du grand nombre des candidats au baptême. Puisque comme on dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au chapitre 4, qu'un jour 3000 personnes reçurent le baptême et un jour 5000. Bon, un autre cas, c'est si l'eau n'est pas assez abondante ou si le ministre n'est pas assez robuste pour me soutenir le baptisé ou à cause de la faiblesse du baptisé par l'immersion pourrait mettre en péril de mort. Donc l'immersion n'est pas nécessaire au baptême et dans la pratique n'est plus utilisée aujourd'hui. On baptise par effusion. Alors, si, c'est pourquoi, si l'on ne peut verser de l'eau sur tout le corps, soit par pénurie d'eau, soit par quelque autre raison, c'est sur la tête qu'il faut répandre l'eau, comme sur la partie où se manifeste le principe de la vie animale. Donc, le principe de l'âme est dans le cerveau. Donc, c'est la tête qui est baptisée. Mais en cas d'urgence, il faudrait baptiser n'importe quelle autre partie du corps. C'est le cas, par exemple, pour un accouchement qui se passe mal. Bon, l'enfant est en difficulté respiratoire, cardiaque, la tête n'est pas sortie la première du sein maternel, c'est par exemple les pieds ou une main qui sont sortis du sein maternel. Il y a un problème de présentation donc, qui s'est posé à l'accouchement. En plus de ça, le cordon ombilical s'est entouré du cou de l'enfant, donc il y a manifestement une difficulté grave là. L'enfant risque de mourir pendant l'accouchement. Seul le pied est sorti, eh bien, ça serait parfaitement. Il faudrait le faire. Il faut que le médecin prenne de l'eau, surtout s'il est catholique et qu'il comprend ce qui se passe. Il prenne de l'eau, il verse l'eau sur la partie du corps de l'enfant qui est sorti du sein maternel, même si c'est une simple main ou un pied, je te baptise, si possible, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Et ensuite, lorsque la tête finalement sort, là, il faut rebaptiser, je te baptise, si c'est nécessaire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le baptême sur la main ou sur un pied est douteux. Alors, est-il nécessaire aussi pour la validité du baptême qu'il y ait une triple immersion, une triple effusion? Vous savez que lorsque le diacre ou le prêtre baptise un bébé, il va verser l'eau baptismale sur le front de l'enfant en trois fois. Je te baptise au nom du Père, première fois, au nom du Fils, deuxième fois, et du Saint-Esprit, troisième fois. Donc, il y a une triple ablution. Alors, saint Thomas explique, en citant Saint Grégoire, que l'unique immersion signifie l'unité de la mort du Christ et l'unité de la divinité. La triple immersion signifie les 3 jours de la sépulture du Christ et la trinité des personnes. Donc cette triple immersion n'est pas nécessaire pour la validité du baptême. Du moment que l'eau a coulé sur le front de l'enfant, sur la touché la peau de l'enfant, avec l'expression habituel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'enfant est baptisé. Avançons dans cette question. Saint Thomas conclut en disant, ni du point de vue de la Sainte Trinité, ni de celui de la Passion, la triple immersion n'est nécessaire au sacrement. Mais l'immersion ou l'effusion est nécessaire, mais pas une triple effusion ou une triple immersion. Alors peut-on réitérer le baptême? Saint Thomas se pose cette question à la fin de la question 66, à l'article 9. Peut-on réitérer le baptême? Bien, puisque le baptême donne un caractère, le caractère étant permanent, le baptême ne peut pas être renouvelé sans sacrilège. Ce serait un sacrilège de renouveler un baptême certainement valide. Par contre, un baptême invalide, c'est autre chose, ou un baptême douteux, c'est autre chose. On en a le droit de baptiser un enfant qui est douteusement baptisé en disant, si c'est nécessaire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Saint Jean est catégorique. Personne, à moins d'être né à nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, personne ne peut être sauvé sans le baptême. Et comme chaque homme ne naît qu'une fois, ainsi le baptême ne peut-il être renouvelé, pas plus que la génération charnelle. Nous sommes baptisés, dit saint Thomas, dans la mort du Christ, par laquelle nous mourons au péché et ressuscitons pour une vie nouvelle. Or, le Christ est mort au péché une fois pour toutes. C'est pourquoi le baptême ne peut être réitéré. Enfin, le baptême imprime un caractère. J'ai expliqué, donc il y a quatre, si vous voulez, quatre raisons pour lesquelles le baptême ne peut pas être renouvelé. Première raison, Jacob ne naît qu'une fois, qui n'a qu'une naissance, donc un baptême. Deuxième raison, parce que le caractère est inamovible, et donc le baptême ne peut être réitéré. Troisième raison, le baptême imprime un caractère qui est ineffaçable et qui est conféré avec une sorte de consécration. Dans l'Église, les consécrations ne se renouvellent pas et le baptême non plus. Enfin, quatrième raison, le baptême nous est donné surtout pour nous libérer du péché originel. Donc, je vous ai expliqué que la libération du péché originel est la conséquence de l'arrivée de la charité dans l'âme de la personne qui vient d'être baptisée. Comme la charité est incompatible avec le péché, donc l'arrivée de la charité dans une âme va effacer tous les péchés existants dans cette âme. Si on baptise un bébé, le seul péché existant dans l'âme du bébé, c'est le péché originel. Donc, par conséquence, le bébé baptisé va perdre le péché originel. Si c'est le cas d'un adulte, en plus du péché originel, il y a aussi tous les péchés actuels. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin, avant le baptême, avant le baptême d'un adulte, de confesser l'adulte, puisqu'il n'est pas encore baptisé, donc la confession sera invalide. Et le baptême efface tous les péchés. Et non seulement efface les péchés, mais nous verrons que le baptême efface aussi les conséquences du péché, c'est-à-dire les peines du purgatoire connectées avec les péchés commis. Le baptême nous est donc donné pour nous libérer du péché originel, et comme le péché originel ne se renouvelle pas, le baptême non plus n'a pas à être renouvelé. Comme par la faute d'un seul, la condamnation s'est étendue à tous les hommes, ainsi par la justice d'un seul vient pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Dit Saint Thomas d'Aquin. Donc il cite la Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 18. Alors nous continuons dans cette question fondamentale de Saint Thomas d'Aquin sur la nature du baptême. Et en conclusion, il va dire, c'est toujours dans l'article 9 de la question 66, le baptême et la Sainte Eucharistie représentent tous les deux la mort et la passion du Seigneur, mais chacun à sa manière. Le baptême rappelle la mort du Christ parce qu'il fait mourir avec le Christ pour naître une vie nouvelle, mais le sacrement de l'Eucharistie rappelle la mort du Christ en nous présentant le Christ lui-même en sa passion comme notre repas pascal. Et de même que l'homme ne naît qu'une seule fois, mais mange souvent, ainsi on ne donne qu'une seule fois le baptême, mais plus d'une fois la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie va maintenir le corps spirituel, si vous voulez, l'âme, en bonne santé spirituelle. De même que la nourriture corporelle maintient le corps corporel, la nature corporelle de l'individu, dans la vie corporelle. Alors, la liturgie du baptême est très belle, donc je conseille beaucoup à ceux qui la connaissent mal de regarder un petit peu ce qui se passe pendant le baptême. Vous avez surtout les bons missels, en général les prières du baptême. Alors, dans le baptême, certains éléments sont nécessaires au sacrement, et d'autres n'ont pour but que de lui donner une certaine solennité. Donc, ce qui est nécessaire au sacrement, on l'a déjà vu, c'est la forme, la matière, et le ministre qui avait l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Donc, ce qui est nécessaire au sacrement, c'est la forme, qui désigne sa cause principale, c'est la parole, le ministre qui est la cause instrumentale, et l'usage de la matière, l'ablution de l'eau, qui en désigne l'effet principal. Donc, la matière, la forme, et le ministre avec l'intention. La matière, encore une fois, c'est la parole. L'eau baptismale. La forme, c'est la parole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le ministre doit avoir l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Donc, le baptême, la forme est cause principale, le ministre cause instrumentale. Alors, pour exciter, donc, Saint Thomas d'Aquin, se pose la question de savoir pourquoi l'Église a rajouté à cette immersion, à ce baptême lui-même, dans sa forme, dans la partie importante, à savoir dans l'ablution elle-même, pourquoi est-ce que l'Église a rajouté toute une série de choses, comme le sel, comme le voile blanc, comme la bougie allumée portée par le parrain, etc. Et bien tout simplement pour exciter la dévotion des fidèles et le respect pour le sacrement. Donc, toutes les autres cérémonies dont l'Église se sert dans la rite du baptême ont pour objet de lui donner une certaine solennité. Ensuite, pour instruire les fidèles. Ça, c'est aussi important. En effet, les gens simples qui n'étudient pas dans les livres ont besoin d'être instruits par des signes sensibles comme des images ou d'autres moyens semblables. Donc, les rites sacramentels les instruisent en les poussant à chercher les vérités que signifient ces signes extérieurs, ces signes sensibles. Donc, il convenait que soit représenté par des signes extérieurs, c'est ce qui se passait dans l'âme de l'enfant, le rite sacramentel. Donc, les oraisons, les bénédictions, etc., font obstacle à la puissance des démons, c'est pour ça qu'il y a deux exorcismes dans le baptême, qui cherchent à empêcher les effets du sacrement. Alors, c'est très important, c'est pour ça que le baptême conféré dans l'église de Vatican II, dans bien des cas, est douteux. Notamment si le prêtre a manifesté clairement qu'il ne croyait plus au péché originel. Donc là, il a manifesté, il se coupait de l'intention de l'Église, son baptême est invalide. Donc, j'ai un cas comme ça, je l'ai peut-être déjà dit, un cas à El Paso, aux États-Unis, dans le Texas, une famille venait d'arriver avec trois enfants, et je commence un petit peu à parler avec la famille. Que les enfants étaient baptisés. On dit oui, on a baptisé les enfants il n'y a pas longtemps, 2-3 mois, les enfants ont été baptisés. C'était des enfants qui avaient déjà 7-8 ans. Et je posais des questions sur le baptême, comment s'est passé ce baptême, c'était avec l'église moderne ou l'église traditionnelle. Je dis, l'église moderne, c'est bien à l'époque, on n'était pas catholique dans la tradition. Et j'ai posé des questions et les personnes m'ont dit, monsieur l'abbé, c'est un peu bizarre, le jour du baptême des trois enfants, on a fait baptiser les trois petits en même temps. Le prêtre a dit que le péché originel n'existait pas et que le baptême n'effacez pas du tout le poche originel, ceci était une invention thomiste de saint Thomas d'Aquin. Donc, il est évident que le prêtre, dans ce cas-là, qui a baptisé les trois enfants, avait manifesté de façon claire qu'il n'avait pas l'intention de faire ce que l'Église demande. Donc, c'est un ministre qui n'avait pas l'intention de faire ce que veut faire l'Église, le baptême était invalide. J'ai demandé aux parents de venir le plus vite possible à la chapelle. On a pris rendez-vous et j'ai baptisé sans condition les trois enfants pour être sûr qu'ils soient baptisés. Nous tous qui avons été baptisés, dit Saint Paul dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est pourquoi le baptême solennel est conféré dans l'Église durant la veillée pascale. C'est pendant la veillée pascale, en principe, qu'on baptise des adultes ou pendant la veillée, pendant la vigile de la Pentecôte. Le baptême solennel est conféré dans l'Église durant la veillée pascale quand on commémore l'ensevelissement du Seigneur et sa résurrection. Et c'est pourquoi c'est après sa résurrection que le Seigneur a donné à ses disciples le précepte de baptiser. Et à la vigile de la Pentecôte, quand commence les solennités du Saint-Esprit, aussi voit-on que les apôtres ont baptisé 3000 personnes le jour de la Pentecôte, le jour où ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, toute une série de cérémonies qui se rajoutent. Donc l'emploi par exemple de l'huile sainte, du Saint-Crème, pour donner une certaine solennité au baptême. Bon, l'huile des catéchumènes par exemple. Le catéchumène est oint sur la poitrine pour qu'il reçoive le don du Saint-Esprit, qu'il rejette l'erreur et l'ignorance et reçoive la vraie foi, car le juste vit de la foi. Il reçoit aussi une onction entre les épaules, par derrière, pour qu'il revête la grâce du Saint-Esprit et se dépouille de la négligence et accomplisse ainsi des œuvres saintes. De sorte que le sacrement de la foi lui donne dans le cœur la pureté de pensée et sur les épaules la force des travaux. Donc, saint Thomas explique, l'enfant après le baptême, ou l'adulte après le baptême, est aussitôt signé sur la tête par le prêtre avec le Saint-Crème, accompagné d'une oraison pour qu'il puisse participer au règne du Christ et recevoir du Christ le nom de chrétien. Saint Ambroise, évêque de Milan, précise que l'huile parfumée est répandue sur la tête, c'est le Saint-Crème, parce que la sagesse du sage est sur sa tête et pour qu'il soit prêt à rendre raison de sa foi à qui la lui demande. Donc on remet au baptisé également un vêtement blanc, non pas qu'il ne lui soit plus permis de porter d'autres vêtements, mais en signe de la glorieuse résurrection à laquelle le baptême fait renaître, et pour désigner la pureté de vie qu'il doit garder après le baptême. C'est pour ça que la semaine qui suit le baptême, les adultes gardaient, quand c'était possible, gardaient une eau blanche pendant toute la semaine. Et cette aube blanche n'était enlevée que le dimanche suivant, comme en général on baptisait les adultes pendant la vigile pascale, le dimanche suivant, on enlevait les catéchumènes qui venaient d'être baptisés le dimanche précédent, venaient tous ensemble à la cathédrale, et là, ils enlevaient leur aube blanche. Alors, question 66, article 11, c'est une question très importante à cause de, malheureusement, d'un groupe d'hérétiques qu'on appelle les phinéistes qui répandent partout que le baptême de sang et le baptême de désir n'existent pas et sont des inventions du temps de saint Thomas d'Aquin. Donc, on va voir avec l'enseignement de l'Église qu'il y a en fait trois sortes de baptême. Le baptême d'eau, qui est le sacrement de baptême, mais aussi dans certains cas d'urgence, peut être remplacé par un baptême de sang ou un baptême de désir. Le baptême de sang, le baptême de désir n'enlève rien au baptême d'eau. Si quelqu'un a un désir de baptême, ne peut pas être baptisé immédiatement parce qu'il n'est pas encore prêt, par exemple, mais qu'il a un baptême de désir, il est évident que cela ne le dispense pas de vouloir et de recevoir dans la pratique le baptême d'eau. Bon. C'est pareil pour quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui donne sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, un martyr par exemple. Il y a de très nombreux martyrs qui ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ et qui n'étaient pas baptisés avec un baptême d'eau. Ils sont morts avec un baptême de sang. Le baptême de sang et le baptême de désir, d'ailleurs, sont ce qu'on appelle des actes de charité parfaite. Or, l'Église a toujours enseigné qu'un acte de charité parfaite pouvait enlever tous les péchés. Donc, saint Thomas répond à l'objection, à la question, les différentes sortes de baptêmes, y a-t-il différentes sortes de baptêmes? Il va répondre en disant que, il va citer saint Paul aux Hébreux sur la doctrine des baptêmes au pluriel. L'auteur emploie le pluriel car il y a le baptême d'eau, le baptême de pénitence et le baptême de sang. Donc, nier le baptême de désir et le baptême de sang, c'est une hérésie pure et simple. Puisque l'enseignement de l'Église est très très clair sur le sujet. Je rappelle qu'un baptême des désirs, c'est un désir de baptême pour quelqu'un qui ne peut pas être baptisé immédiatement. On ne peut pas avoir, je vous ai déjà expliqué, un baptême de désir pour quelqu'un d'autre. Une maman ne peut pas avoir un désir de baptême. Elle peut prier pour que son enfant qu'elle porte en son sein immédiatement après la naissance puisse être baptisé le plus vite possible, mais elle ne peut pas avoir un baptême de désir pour l'enfant. C'est pas possible. Puisqu'il faut l'usage de sa propre volonté pour pouvoir éliciter un baptême de désir. Un enfant qui n'a pas encore l'usage de sa volonté ne peut donc pas avoir un baptême de désir. Une maman ne peut pas avoir un baptême de désir pour l'enfant qui n'est pas encore né. Attention, il y a beaucoup d'apparitions aussi complètement saugrenues, non reconnues par l'Église, qui racontent des grosses bêtises sur le sujet. Il y a par exemple certaines personnes, moi j'ai connu ça aux États-Unis, j'ai jamais réussi à changer Mais c'est cette façon de procéder, parce que les personnes qui faisaient ça étaient très très têtues. C'est en général des femmes, donc une femme têtue, c'est terrible. Et tous les soirs, elle prenait de l'eau bénite et elle jetait de l'eau bénite avec un goupillon dans les quatre coins cardinaux en disant: je baptise tous les bébés avortés de la journée en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elles expliquaient, ces femmes, que tous les bébés abortés, les âmes des bébés abortés étaient ainsi baptisées, elles allaient tout au ciel. C'est absolument impossible, parce qu'il faut, on l'a déjà vu avec saint Thomas d'Aquin, il faut qu'il y ait un contact physique entre l'eau et la peau du baptisé, hein, la tête du baptisé, pour que le baptême soit valide. Si l'eau du baptême ne touche pas la peau du baptisé, le baptême est invalide. Alors voilà ce que dit saint Thomas. En dehors du baptême d'eau, on peut recevoir l'effet du sacrement de la passion du Christ en tant qu'on se conforme à lui en souffrant pour lui. Donc, attention, il n'y a pas, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas institué trois baptêmes, il a institué un baptême. Mais dans un cas d'urgence, le baptême d'eau peut être remplacé par le baptême de sang, de martyr, ou le baptême de désir. Pour la même raison, donc, dit saint Thomas, on peut aussi recevoir l'effet du baptême par la vertu du Saint-Esprit, non seulement sans le baptême d'eau, mais même sans le baptême de sang. Quand le cœur, dit saint Thomas, quand le cœur, donc quand le cœur, dit saint Thomas, est mu par le Saint-Esprit à croire en Dieu, à se repentir de son péché. C'est pourquoi on dit aussi baptême de pénitence. Donc le baptême de désir est un baptême dans le sens que c'est un acte de contrition parfaite. Et l'acte de contrition parfaite, l'Église a toujours enseigné qu'un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire regretter ses péchés par amour du bon Dieu, eh bien, un acte de contrition parfaite efface tous les péchés. C'était très important en Afrique, je me rappelle quand j'étais en Afrique, souvent on exigeait, les missionnaires exigeaient avec raison d'ailleurs, un certain temps d'attente entre le moment où une personne adulte demandait le baptême et le moment où on le baptisait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le païen qui était devant nous ait perdu, avant d'être baptisé, toute une série de mauvaises habitudes qu'il avait prises dans le paganisme. Entre autres, la polygamie. Et donc, on demandait d'abord aux gens de vivre comme des catholiques, pour prouver qu'ils étaient capables de le faire. En même temps, ils étudiaient bien leur catéchisme, et puis on les baptisait au bout d'un an, et même dans certains cas, au bout de 2 ans. Alors, il y a certains catéchumènes qui disaient, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce que je fais si je meurs dans cette année? Je suis pas encore baptisé, je vais en enfer. Non, parce que vous pouvez déjà avoir un baptême de désir. Si vous demandez pardon pour vos péchés du fond du cœur, en demandant la grâce de le baptiser au plus tôt, eh bien, vous obtiendrez du bon Dieu la grâce d'un acte de contrition parfaite qui efface tous les péchés. Non seulement les péchés véniels, mais également les péchés mortels. Donc, les deux baptêmes de sang et de désir sont en fait des suppléances du baptême. C'est ce que dit saint Thomas. Ces deux autres baptêmes sont donc appelés baptêmes parce qu'ils suppléent au baptême. Que le martyr remplace quelquefois le baptême, le bienheureux Cyprien en trouve un argument qui n'est pas sans poids dans le larron qui n'était pas baptisé, à qui il a été dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Le bon larron, saint Dismas. En réfléchissant de plus en plus, je trouve que ce n'est pas seulement la souffrance subie pour le nom du Christ qui peut suppléer au défaut de baptême, mais aussi la foi et la conversion du cœur, si le manque de temps empêche de célébrer le mystère du baptême. Donc la souffrance subie pour le nom du Christ, qui supplée au défaut du baptême, correspond au baptême de sang. La foi et la conversion du cœur, si le manque de temps empêche de célébrer le mystère du baptême, va correspondre au baptême de désir. Donc attention, c'est l'enseignement de l'Église. Alors on va vous dire, les finéistes vont vous dire que le père Finet, fondateur du finéisme, a été excommunié par le pape Pie XII parce qu'il enseignait hors de l'Église catholique qu'il n'y a pas de salut. C'est une injure grave contre le pape Pie XII. Parce qu'effectivement, de dire et d'enseigner qu'hors de l'Église catholique il n'y a pas de salut, c'est la foi catholique. Ça, c'est un dogme de foi. Et Pie XII a toujours cru, bien sûr, en l'existence de ce dogme de foi. Il est évident qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc le pape Pie XII a excommunié en 53, si mes souvenirs sont exacts, a excommunié en 53 le père Finet, qui est un prêtre américain de Boston, dans le Massachusetts, non pas parce qu'il enseignait hors de l'Église catholique qu'il n'y a pas de salut, mais parce qu'il enseignait que le baptême de désir et le baptême de sang n'existaient pas. Et ça, c'est contre l'enseignement catholique. Il y a eu des milliers de martyrs pendant les grandes persécutions de 67 à l'an 313, 14 millions de martyrs, dit d'Arras. Beaucoup de ces martyrs n'étaient pas baptisés, puisqu'à l'époque, on baptisait pas encore les enfants, mais les adultes. Et donc beaucoup de ces catéchumènes sont morts martyrs alors qu'ils n'étaient pas baptisés avec un baptême d'eau. C'est évident qu'ils sont morts avec un baptême de sang. Hein. Le cas par exemple de la sœur de lait de Sainte Agnès, qui s'appelait Sainte Émérancienne, qui a été baptisée, massacrée par les païens, qui n'étaient que catéchumènes, elle n'était pas encore baptisée avec un baptême d'eau, massacrée sur la tombe de Sainte Agnès par les païens. Eh bien, elle est morte avec un baptême de désir et un baptême de sang, les deux. Et donc, c'était suppléance du baptême. Elle est donc morte avec la grâce du bon Dieu. Et donc, elle est canonisée par l'Église. Donc, attention aux finéistes qui racontent des grosses, grosses bêtises là-dessus. Alors, au début, ils faisaient des dégâts qu'aux États-Unis parce qu'ils avaient un centre qui s'appelait Saint-Bénédict Center, le Saint-Benoît, qui faisait beaucoup de dégâts dans ce domaine-là aux États-Unis sur les catholiques. Malheureusement, maintenant, ils ont un site en France. Je crois que c'est lafoi.fr. qui est un site finéiste, ils font de très bonnes choses, c'est ça justement leur danger. Leur danger consiste à... Ils sont très dangereux parce qu'ils mélangent des choses vraies et des choses fausses. Et qui vont faire un excellent travail, par exemple, sur des vidéos magnifiques sur Fatima, l'apparition de Fatima, très bien. Mais à côté de ça, ils vont raconter des bêtises énormes en niant le baptême de sang, le baptême de désir. Alors, on pourrait dire beaucoup beaucoup de choses sur ce sujet, Il y a des tas d'enseignements de l'Église, non pas simplement dans les catéchismes traditionnels de l'Église, mais également dans saint Thomas d'Aquin, dans saint Ambroise. Je ne reviens pas là-dessus parce que j'ai déjà couvert tout ça dans d'autres parties de la somme que j'ai déjà expliquée, où saint Thomas d'Aquin lui-même reparle de ces problèmes-là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça ferait double emploi. Revenez sur ce sujet-là pour ceux qui demandent à avoir plus d'explications sur ce sujet. Donc l'abbé Vacant, qui est quand même une sommité en théologie, qui était professeur au grand séminaire de Nancy au 19e siècle, fin du 19e siècle, dit que les enseignements express du magistère quotidien se trouvent surtout dans les symboles, le credo par exemple, et dans les professions de foi, dans les catéchismes. Et que le catéchisme du Concile de Trente et les catéchismes diocésains, considérés dans leur ensemble, expriment la doctrine des souverains pontifes et des évêques qui les ont fait rédiger. Ils manifestent en même temps la croyance des fidèles, ils en sont la règle immédiate. Comme ces catéchismes ont pour but d'exposer non ce qui est opinion, mais ce qui est la foi de tous, il faut regarder comme proposé à notre foi la plupart des points qu'ils s'accordent à enseigner sans restriction. Tous les catéchismes traditionnels d'avant Vatican II enseignent, parlent du baptême de sang et du baptême de désir. Donc, il est de foi que lorsqu'on ne peut pas recevoir le baptême, il peut être remplacé par le martyre, qu'on appelle le baptême de sang, ou par un acte d'amour parfait pour Dieu, qu'on appelle le baptême de désir. Et donc, c'est dans la foi catholique, vous avez des textes magnifiques aussi de saint Ambroise, évêque de Milan, donc au 4e siècle, au 3e siècle, saint Ambroise, évêque de Milan, qui parle également du baptême de désir. Entre autres, quand il se préparait au baptême, l'empereur Valentinien, qui est mort à la guerre avant d'être baptisé, et c'est le saint Ambroise lui-même, l'évêque de Milan, qui a célébré la messe de funérailles pour cet empereur qui venait de mourir, sans baptême d'eau, et il explique très bien dans son sermon qu'il avait en fait un baptême de désir, et donc il est sauvé. Alors, je vous donne un autre texte ici de Monseigneur Colli, encore des autorités en matière de catéchisme, en parlant des adultes. On trouve aussi ça dans Monseigneur Gaume, dans l'abrégé du catéchisme de persévérance, un excellent livre. Ou bien ces adultes connaissent le christianisme et la loi du baptême, en ce cas, le baptême leur est nécessaire pour le salut éternel. Bon. Ou bien ces adultes sont encore dans les ténèbres de la fidélité du paganisme, sans connaître la loi évangélique. Dans ce cas, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Dieu ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas, et s'ils ont été fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, de leur religion, pardon, ils pourront être sauvés parce qu'ils ont un baptême de désir qu'on appelle implicite. Si rigoureuse que soit la loi du baptême d'eau, ce sacrement peut être suppléé pour les adultes de deux façons, soit par un acte de charité parfaite, baptême de feu ou de désir, soit par le martyre qu'on nomme parfois le baptême de sang. La charité parfaite peut suppléer au baptême d'eau quand celui-ci est impossible et qu'on a un ardent désir accompagné d'un véritable amour de Dieu et du regret des fautes actuelles qu'on a pu commettre. Le martyre qui consiste à donner sa vie pour Dieu, est le signe évident d'une charité vraiment parfaite. Donc le martyre est un acte de charité parfaite. Aussi, remplacer le sacrement de baptême en cas d'impossibilité de le recevoir, et l'Église a mis au rang des saints plusieurs martyrs qui n'ont eu d'autre baptême que celui de leur sang. Je vous ai donné l'exemple de Sainte Émère Ancienne. Donc, le catéchisme du Concile de Trente, qui est infaillible, hein, là c'est l'enseignement du magistère ordinaire de l'Église, l'Église n'est point dans l'usage d'accorder sur le champ le baptême à ces sortes de personnes, les catéchumènes, les adultes. Elle veut au contraire qu'on les diffère pendant un certain temps. Ce délai n'entraîne point pour eux les dangers qui menacent ces enfants, comme nous l'avons dit plus haut, parce qu'ils sont doués de l'usage de la raison. Et le désir et la résolution de recevoir le baptême, joint au repentir d'avoir mal vécu, leur suffisent pour arriver à la grâce et à la justification. Et si quelque accident soudain venait les empêcher de se purifier dans les fonds salutaires, ils ont un baptême de désir. Donc tout ça, et tout ça, c'est très important. Donc, saint Thomas d'Aquin a parlé de ça déjà dans la somme théologique, dans la deuxième partie de la deuxième partie, Secunda Secundae, à la question 100, article 2. Donc, je vous renvoie les fidèles qui veulent plus d'explications sur ce sujet aux commentaires que j'ai donnés dans le cours de l'histoire, les cours que vous avez sur Internet, cours sur Saint Thomas d'Aquin, allez à la deuxième partie, question 100, article 2. Voilà ce que dit Saint Thomas. Supposons maintenant un adulte désirant le baptême et en danger de mort, que le prêtre ne veut pas baptiser, sans argent, ce serait un cas de simonie épouvantable, il doit, s'il le peut, se faire baptiser par quelqu'un d'autre. Si ce recours lui est impossible, il ne doit aucunement acheter à prix d'argent son baptême, mais plutôt mourir sans l'avoir reçu. Le baptême de désir supplée en effet pour ce que le sacrement ne peut lui donner. Voilà. Donc c'est clair, tous les grands théologiens ont expliqué ces choses-là. Dans le code de droit canonique, okay, à canon 737, vous avez la même chose. Le baptême porte et fondement des autres sacrements est nécessaire de fait ou tout au moins de désir au salut de tous. Il n'est conféré validement que par l'ablution avec une eau vraie et naturelle accompagnée des paroles prescrites. Donc, le code de droit canonique, au canon 737, parle aussi du baptême de désir. Alors, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà parlé de toutes ces choses-là. Donc, méfiez-vous énormément des finéistes qui ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans les âmes de nos fidèles, en amenant la confusion. Donc, je vais terminer rapidement la question 66, puis encore un article qui est relativement simple, donc je vais finir ça maintenant, j'ai dépassé un petit peu l'heure pour ce cours, je m'excuse, mais c'est important. Donc saint Thomas vient de dire que les deux autres baptêmes, c'est-à-dire baptême de désir ou baptême de le martyr, baptême de sang, supplée au baptême. Donc saint Thomas, dernier article de la question 66, compare ces baptêmes. Et voilà ce qu'il dit. L'effusion de sang pour le Christ et l'action intérieure du Saint-Esprit sont appelés des baptêmes, c'est le baptême de sang, le baptême de désir, parce qu'elles produisent l'effet du baptême d'eau. Et le baptême d'eau tient son efficacité de la passion du Christ et du Saint-Esprit. Ces deux causes agissent en chacun de ces trois baptêmes d'une façon tout à fait supérieure dans le baptême de sang. Donc le baptême de sang, c'est un acte de charité parfaite, comme pour le baptême d'eau d'ailleurs. Le baptême d'eau pour un enfant n'est pas un acte de charité parfaite, parce qu'il faut être un adulte pour pouvoir éliciter un acte de charité parfaite. Mais de même que le baptême d'eau efface tous les péchés et en même temps les peines du purgatoire attachées au péché, de la même façon, le baptême de sang envoie le martyr directement au ciel. Car il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Répandre son sang n'a pas de valeur si cela se fait sans charité. Aussi, le baptême de sang implique le baptême d'esprit. Dieu n'est pas bloqué par les sacrements comme les hommes. Et donc, Dieu peut parfaitement donner la grâce de la vertu de charité à quelqu'un qui donne sa vie pour lui, même si cette personne n'a pas reçu le baptême d'eau. Donc, il faut que les choses soient claires. Ne vous laissez pas contaminer par les hérésies des finéistes. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.